OK, si vous voulez tourner avec moi, on va aller au chapitre 35 du livre de la Genèse. On va lire les versets 1 à 15. Donc, chapitre 35 du livre de la Genèse, les versets 1 à 15. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. » Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Jacob, et à Isaac, excusez-moi, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Alors, je vais vous asseoir. Le message aujourd'hui a un thème. Je crois que le thème est très clair quand on se met à analyser le texte un petit peu avec attention. Et j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « L'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus ». On est des élus de Dieu et tout au cours de notre histoire, là on va voir l'histoire de Jacob, on va voir comment Dieu est miséricordieux. Parce qu'il faut se souvenir de ce qu'on avait lu, qu'est-ce qu'on avait entendu dans notre dernier sermon. Qu'est-ce qui s'était passé? Dina était curieuse, elle avait voulu aller dans le pays pour savoir avoir des contacts avec les filles du pays, et on a vu que ça avait mal tourné. Elle a été violée, et les fils ont voulu se venger, et ils ont tué tous ces gens-là, et ils avaient compté des mensonges, donc ils ont fait... Ils ont pris tous les biens de ces gens-là. Et là, on est rendu là. Et là, on voit que Dieu est en train de faire une œuvre dans leur cœur, que moi j'appelle une œuvre de miséricorde. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, au début, on voit que Jacob prend soudainement conscience qu'il y avait de l'idolâtrie dans sa vie et qu'il se débarrasse des dieux étrangers. Et quand on parle des anneaux, c'est toutes des affaires qui étaient reliées à l'idolâtrie. Ils se débarrassent de ça, ils les enterrent sous un chêne. Très important de faire le lien avec ce qui vient de se passer. Autrement dit, Dieu se sert souvent des expériences que nous, on trouve difficiles, et c'était difficile parce que ça aurait pu mal tourner toute cette histoire-là, et que les nations environnantes se choquent après lui et décident de se venger, et il mettait sa propre famille, et non seulement sa propre famille, mais toute la nation parce que c'était la nation d'Israël naissante qui risquait d'être effacée. Et là, il se passe quelque chose que souvent on ne fait pas le lien avec le chapitre précédent. Chapitre 34, la question qu'ils ont eu des problèmes, mais les problèmes étaient causés par leur propre idolâtrie. Et ici, Jacob, il allume, autrement dit. Il se rend compte, on a eu du trouble, on vient de sortir du trouble, et moi, je pense que le problème est relié au fait qu'il y a d'idolâtrie encore dans nos vies. Et là, ça l'a amené à se débarrasser de ça. La miséricorde de Dieu. Et une autre chose qui est à remarquer dans le texte aussi, c'est que la terreur de Dieu s'est répandue sur toutes les nations environnantes. Ça répète le contraire, ça répète lui qui aurait pu être terrorisé par les nations qui auraient voulu se venger. Dieu permet qu'après qu'il ait eu connu cette expérience-là, non seulement il se débarrasse de son idolâtrie, mais que Dieu permet que les nations alentour soient terrorisées. La terreur de Dieu se répand sur les nations alentour. Si on n'appelle pas ça de la miséricorde, je me demande bien que ça nous prend pour qu'on appelle ça de la miséricorde. Alors, on va voir dans le texte d'aujourd'hui, dans les 15 premiers versets de Genèse 35, que l'Éternel manifeste sa miséricorde. Je vois qu'il y a au moins trois moyens qu'il utilise dans le texte. Dans le premier, c'est Dieu rappelle des choses. On va voir en détail un petit peu cette première idée-là dans le verset 1. Dans le verset 2 à 6, on va voir que Dieu se sert des expériences que ses élus ont vécu comme étant une expérience difficile pour les réformer. Ils amènent une réforme dans leur vie. Ils amènent des changements radicaux qui ont besoin de se faire, et Dieu se sert de cet événement-là. Mais ce qui est intéressant, c'est non seulement de voir ce qui se passe dans la vie de Jacob et de sa famille, c'est de voir, de faire le lien que Dieu fait la même chose envers nous. Le titre que j'ai donné, « L'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus ». Souvent, il se sert aussi d'expériences difficiles dans nos propres vies pour nous manifester de la miséricorde. Des fois, on ne le voit pas tout le temps. On le voit des fois juste après coup. Et la troisième idée, versets 7 à 15, « L'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par le renouveau ». Autrement dit, on va voir qu'il y a des choses nouvelles qui s'installent dans la vie de Jacob et de sa famille après toutes ces expériences-là. Alors, on va regarder ça en détail. Alors, les principales idées, c'est vraiment l'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par le rappel, verset 1, par la réforme, verset 2 à 6, et par le renouveau, verset 7 à 15. Quand on regarde ce que les Écritures nous enseignent, on dit de Dieu, un des attributs de Dieu, c'est la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La misère du cœur. Dieu voit notre misère et il intervient par des grâces, par de la bonté. Si ce n'était pas de la miséricorde de Dieu, personne de nous serait ici ce matin. On bénéficie de la miséricorde de Dieu à tout moment de nos vies, depuis avant même notre salut, au moment de notre salut, et après toute la vie chrétienne qu'on va vivre, Dieu va manifester encore de la miséricorde. Des fois, on fait des bêtises monumentales dans la vie chrétienne. Dieu permet qu'on apprenne notre leçon, mais il permet quand même, il continue d'être bon envers toi, même si parfois on dirait que tu mériterais plus une correction que d'autres choses, mais des fois, il continue à te montrer sa bonté. Donc, la miséricorde de Dieu, elle a quelque chose de particulier. Elle est infinie. C'est ce qui est intéressant avec Dieu. Peu importe la qualité de Dieu dont on parle, bonté, amour, miséricorde, patience, etc., tous les attributs, infini, ça veut dire qu'on ne verra jamais le bout. Il est miséricordieux depuis des siècles, puis il n'est pas vidé de sa miséricorde. Il en a encore, puis il va en avoir encore, puis il en a encore. Infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de bout à ça. Il n'y a pas de bout. Pour le dire en québécois, il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout à la miséricorde de Dieu. Elle est infinie, elle s'est manifestée avec puissance au moment de notre élection, au moment de notre union à Christ, parce que le Seigneur, il dit que de toute éternité, il a décidé qui profiterait de son salut. Donc, il nous a unis à Christ, comme ça dit dans Éphésiens. il nous a unis à Christ. Au moment de notre adoption, il nous dit, au moment qu'on croit, qu'il nous adopte comme ses enfants. Au moment de notre justification, justification, on l'a dit, c'est l'homme. Dieu nous déclare juste, mais sur la base que Christ a accepté de subir le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place et qui a accompli la loi à notre place encore là, notre justification. Et au moment de notre sanctification, ça c'est depuis le début, et il continue d'exercer sa miséricorde. Il nous prend à un point où on est plein de péchés, grossiers, des gros péchés, là, et tranquillement, pas vite, il nous change, il nous transforme, il nous amène de plus en plus à ressembler davantage à Jésus-Christ. Et ça se termine pas là, parce que la miséricorde va se terminer quand on va décéder, on va tomber dans ce qu'on appelle la glorification. Et là, on va continuer de découvrir la miséricorde de Dieu et d'en profiter, même au ciel, ça n'arrêtera pas. On va découvrir la miséricorde de Dieu au ciel, et ça va être infini. Quelque chose d'infini, on n'a jamais fini de voir le bout. L'amour de Dieu, on ne verra jamais le bout. Même si on reste au ciel 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, imaginez, ça en prend de la miséricorde, ça en prend de l'amour pour qu'au bout d'un million d'années, je continue à découvrir encore des choses sur chacun des attributs de Dieu. Alors la miséricorde, même rendue au ciel, on va continuer à découvrir des choses sur Dieu qu'on ne connaît pas. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Et la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle a aussi une autre qualité. Donc, première qualité, infinie. Deuxième qualité, elle est fidèle. Dieu ne lâchera jamais d'exercer sa miséricorde envers chacun de ses élus, c'est nous, les croyants. Donc, elle est constante, il l'exerce continuellement. Elle est généreuse. Vous allez voir... Ici, là, qu'est-ce que le peuple d'Israël venait de faire, là? De tuer une nation alors qu'ils étaient dans leur faiblesse, de voler tout leur bien. C'était un très, très grand péché. Même si pas tout le monde a participé, c'était surtout Lévi et Siméon qui ont participé, il reste que Dieu aurait pu permettre qu'il y ait une punition très sévère qui s'étende sur toute la nation d'Israël. Il ne l'a pas permis. Ça, c'est constant, c'est généreux. Dieu est généreux envers le peuple d'Israël. Et aussi, tout au long de notre vie, la miséricorde de Dieu, elle est ce qu'on pourrait appeler multiforme. Elle s'exprime sous différentes formes. Moi, j'en vois au moins trois formes, puis on va en parler, mais là, sous ces trois formes-là, il y aurait une multitude d'autres petites formes, qu'on pourrait dire. La première, c'est qu'elle s'est manifestée avant même notre salut. Autrement dit, moi, si je ne me trompe pas, je serais né de nouveau le 10 janvier 1979. Mais elle s'était exercée avant ça, parce que c'est de toute éternité. Dieu, de toute éternité, avait dit que moi, je deviendrai un enfant de Dieu, et il avait même choisi le moyen par lequel je deviendrai un enfant de Dieu et la date précise. Dans mon cas, c'est cette date-là. Dans votre cas, vous autres, je ne sais pas si vous la savez, la date que Dieu... Des fois, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Ce n'est pas grave qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. C'est que Dieu l'a fait à un moment donné. Donc, elle est multiforme. Elle s'est exercée avant même notre salut, puisque Dieu, de toute éternité, avait décidé de nous accorder. C'est de la miséricorde, ça. Tu es un pécheur, là. Puis il décide que malgré que tu sois un pécheur, il te donne la vie éternelle, puis il te donne le pardon de tes péchés. C'est une miséricorde qui est insondable. C'est infini. Insondable, ça veut dire qu'on ne peut pas jamais trouver le fond de ça. Ensuite, elle s'est exprimée, bien entendu, au moment de notre conversion. Il arrive un moment dans la vie, moi dans mon cas, avant mon salut, j'étais un pécheur... Pas mal avancé, et si Seigneur n'était pas venu me chercher là, il est fort probable que je serais mort aujourd'hui, à cause du train de vie que je menais. Si j'avais continué dans cette direction-là, c'est sûr qu'éventuellement, aujourd'hui, je serais fort probablement mort. Je dis pas ça, je dis ça très sérieusement, fort probablement que je serais mort à cause du train de vie que je menais. Alors, le Seigneur vient te chercher, c'est de la miséricorde, ça. C'est beaucoup de miséricorde même. Donc, le moment de ta conversion, quand Dieu opère ta nouvelle naissance en ta vie, c'est une grosse étape de ta vie. Moi, dans mon cas, c'est une énorme étape. Et après notre salut, pensez-vous que ça s'arrête là, la miséricorde?
Non.
Ça continue. Ça continue parce que malgré nos bonnes intentions, on continue de pécher. C'est triste ça, quelque part. Quand on pense que Dieu, on lui doit tant, il a tellement fait pour nous que nous, parfois, par notre faiblesse, on continue des fois de faire des petits mensonges. On continue de faire des péchés de toutes sortes de natures, dans nos pensées. Si le Seigneur... Moi, il y a un pasteur, une fois, qui avait dit à Sherbrooke, je l'ai toujours retenu, ça, il dit, aimeriez-vous ça, à matin, que je projette sur un gros écran sur le mur votre vie de pensée de toute la semaine? Seriez-vous prêt à... OK, disons, on prend la vie de pensée de Marcel Longchamp cette semaine, puis on vous la montre au complet, sur le mur. Et... Je suis pas prête à ce que vous voyez ça. Puis je suis à peu près certain que c'est la même chose pour vos vies de pensée. Parce qu'il se passe énormément de péchés là-dedans, dans ce caboche-là. Puis dans chacune de nos caboches, comme on dit, il se produit énormément. Si on n'est pas prêt à ce que tout le monde voit sur le mur que ce que j'ai pensé, puis que vous êtes pas prêt, vous seriez pas prêt à regarder sur le mur, que nous, on regarde sur le mur que ce que vous avez pensé durant toute la semaine, ça veut dire qu'il y a beaucoup de péchés qui sont faits dans la pensée. Beaucoup de péchés qui se sont faits dans vos paroles. Combien de choses que vous avez dit cette semaine qui étaient des péchés? C'est incroyable, hein, comment on dit. Le péché, c'est profondément enraciné dans nous. Puis même après notre salut, on continue de pécher. Donc Dieu a beaucoup de miséricorde pour continuer à nous endurer. Malgré nos misères, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements nombreux, nos péchés qui continuent à s'exercer. Ça ne nous autorise pas à dire « Oh ben là, je suis un pécheur, puis j'ai péché cette semaine, puis c'est normal. » Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné les moyens pour qu'on puisse vaincre le péché, pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse devenir meilleur de jour en jour. Si on ne devient pas, c'est pas de la faute à Dieu, parce qu'il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour qu'on puisse le faire. Si on le fait pas, si on n'en profite pas de ce que Dieu nous a donné, il nous a donné la Bible, il nous a donné la prière, il nous a donné l'assistance aux assemblées, et plein d'autres choses. Il nous a donné, comme ça dit dans 2 Pierre, tout ce qu'on a besoin pour notre vie, la vie et notre piété. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin, autrement dit. Si on n'évolue pas, puis on ne grandit pas, c'est pas de sa faute à lui. Parce qu'il nous a tout donné, c'est à nous autres à le prendre, qu'est-ce qu'il nous a donné. Donc, nos misères, nos folies, nos excès, notre faiblesse, notre inconscience, nos infirmités, le Seigneur continue à nous donner de la miséricorde malgré tout cela. Moi, il y a un psaume, parce qu'en préparant ma leçon, je me suis dit, il me semble qu'il y a un psaume qui dit à chaque verset, car sa miséricorde dure à toujours. Et là, je me suis souvenu que c'était dans quel psaume. Je suis allé le chercher. Psaume 136, verset 1. Je vais juste vous donner un verset. Mais dans le psaume 136, il y a 26 versets. Et chaque verset termine par la phrase suivante. Verset 1 dit, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement ou dure à toujours, dépendamment de la version que vous avez. » Vous prenez tout le chapitre, le psaume 136, et le Seigneur, n'oubliez pas d'affaire, la Bible, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Si Dieu répète 26 fois dans un psaume que sa miséricorde dure éternellement, d'après vous, c'est parce que le Seigneur veut insister sur une idée. Quand tu répètes quelque chose à quelqu'un deux fois, trois fois, t'insistes. Mais 26 fois, d'après vous, veux-tu nous montrer qu'il est miséricordieux, le Seigneur? C'est-à-dire, car sa miséricorde dure éternelle. Très bon savoir. Donc, on va regarder dans le verset 1 que l'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par le rappel. Dieu veut rappeler des choses à, veut nous rappeler des choses à Jacob, mais il nous rappelle des choses également à nous. Jacob vient de vivre une expérience amère, douloureuse, et même qu'on pourrait qualifier de traumatisante. Si vous auriez tué un paquet de monde, puis que vous vous diriez « ces gens-là vont se venger », vous seriez mort de peur. Alors, c'est ça, il vient de vivre une expérience extrêmement douloureuse, amère et traumatisante. Ses fils, Siméon et Lévi, ont massacré par l'épée les Cananéens habitant à Sichem à cause de l'outrage que ces gens-là avaient fait à leur sœur Dina en la violant. Et aussi en pillant tous leurs biens. Ils ont pillé tous leurs biens. Jacob, bien entendu, vit dans la peur de la vengeance des nations environnantes. Puis si vous auriez été à sa place, vous auriez vécu dans la peur également. Alors, il est profondément ébranlé parce qu'il réalise le danger dans lequel ses fils l'ont placé. Il réalise que ce drame violent aurait pu menacer l'existence même de la jeune nation d'Israël. On ne se rend pas compte. Et là, on est dans l'histoire de la rédemption, depuis le début de la Genèse. On est dans l'histoire de la rédemption et on arrive à un événement où Dieu aurait pu permettre que ils se vengent, les nations se vengent, et que la nation d'Israël elle-même aurait été balayée. C'était grave ce qui se passait, là. C'était très grave ce qui se passait. Il comprend que l'accomplissement de la promesse divine d'envoyer le Messie par sa descendance est par le fait même menacé. On le voit-tu, ça, depuis le début, que toute l'histoire de la Bible, c'est l'annonce qu'il va y avoir un Messie qui va venir. Et là, on arrive à un événement qui aurait pu jeter tout ça à terre. Pourquoi Dieu a permis que ça ne se réalise pas? C'est parce qu'il a fait une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il fait en sorte qu'elle se réalise. Et là, c'est lui qui a permis qu'il fasse un lien entre ce qui est arrivé puis le fait qu'il avait encore de l'idolâtrie dans sa vie. Et c'est lui qui a permis d'apaiser les esprits de ces nations-là qui étaient alentour en disant la terreur de Dieu s'est répandue sur tous ces gens-là. Verset 35, chapitre 35, verset 1. Et Dieu dit à Jacob, voyez-vous, ça venait d'arriver, ça, toute cette histoire-là. C'est encore frais dans sa mémoire. Il est mort de peur, probablement. Et là, Dieu dit, donc Dieu parle. Dieu parle à son serviteur et il lui dit quelque chose de précis. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Il est en train de lui dire quoi faire. Et après, il dit, « Fais-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü, ton frère. » Il vient lui rappeler quelque chose du passé, avant même l'événement qui vient de se produire avec Dina. Il veut lui rappeler qu'il a fait une grâce spéciale, il l'a accordée au bon moment. Dieu lui accorde ça au bon moment, de lui dire où aller, quoi faire, parce qu'il devait être dans sa tête, là. Quand on vit des émotions comme ça, très fortes, là, t'as peur de te faire tuer, tu sais plus où tu t'en vas, là. Là, c'est Dieu lui-même qui dit, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Il dit quoi faire, demeure-y. Et là, il lui dit, fais-y un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant, il va encore plus loin en arrière. Il lui dit, oublie pas qu'à un moment donné, tu étais dans la misère et je t'ai apparu pour t'encourager, pour te dire comment agir et où t'en aller. Lorsque tu fuyais devant Ésaü, ton frère. Alors, une grâce qui est vraiment généreuse et audible Dieu dit, il a compris, de quelle façon est-ce que c'était que Dieu a parlé à son esprit ou est-ce que Dieu a parlé avec des véritables paroles. Le texte ne dit pas, mais dit, en tout cas Dieu a dit quelque chose, il a compris que Dieu lui parlait. Et il lui a parlé à lui personnellement. Dieu dit à Jacob, il ne l'a pas dit à toute la nation, il ne l'a pas dit à ses fils, il a dit à Jacob, le chef de la famille, le chef de la tribu, le chef de la nation d'Israël, il lui a dit à lui. Et il lui dit, la grâce, il veut lui rappeler quelque chose quand il dit « Lève-toi ». Le Seigneur nous manifeste très souvent sa miséricorde après qu'on a vécu des grandes détresses. Je ne sais pas si vous êtes, depuis que vous êtes chrétien, moi ça fait 40 ans, là. Avez-vous vécu des détresses en 40 ans? Moi, je l'ai vécu. Je ne savais pas certain que vous l'avez vécu aussi. Des détresses, c'est qu'on file malheureux, il nous arrive des affaires, on dirait que ça nous tombe dessus, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où on s'en va, on dirait qu'on est tout mêlé. Et c'est souvent lors de ces moments-là que le Seigneur intervient dans nos vies et qu'il nous manifeste de la miséricorde. Quand on dit être miséricordieux, c'est parce que tu vois la misère de quelqu'un et tu interviens pour la soulager. C'est ça, la miséricorde. C'est voir la misère de quelqu'un et d'intervenir pour la soulager. Et Dieu fait ça d'une façon constante dans nos vies, constante, constante. Donc, il lui rappelle aussi sa grâce qu'il y a eu envers lui dans le passé, dans le verset 1. Il lui rappelle aussi sa volonté. Quand on est dans la détresse, on ne sait pas comment agir correctement. Dieu lui dit avec clarté. Il ne dit pas « descends à Bethel, monte ». À Bethel, maison de Dieu. Monte à Bethel, monte à la maison de Dieu. Alors, Bethel, ça se trouvait à 28 milles de l'endroit où il était. Donc, là, quand tu prends Sichem, là, tu montes à Bethel, ça prenait 28 milles pour monter là. Et Dieu lui révèle, lui remémore les vœux qu'il a exprimés à cet endroit-là. Quand il était à cet endroit-là, puis que Dieu a intervenu, là, quand il fuyait devant son frère, là, il était aussi dans la détresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, il est dans la détresse, Dieu intervient. Dans ce temps-là, quand il fuyait devant son frère, il était dans la détresse. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Encore intervenu. On voit-tu un lien, là? Comment Dieu intervient de façon régulière dans nos vies. Mais qu'est-ce que Dieu veut lui rappeler? C'est que lorsqu'il est intervenu, qu'il fuyait devant son frère, Jacob, il s'était engagé devant Dieu à faire des choses. Est-ce qu'il l'avait accompli? C'est ça qu'il faut réaliser. Dans Genèse 28, on va reculer un petit peu pour comprendre le fil de tout ça. Genèse 28, versets 15 à 22. Et là, Dieu lui dit, il est en train de fuir son frère Ésaü, et ça dit, et voici, Dieu lui dit, Dieu lui rappelle des choses. Et voici, je suis avec toi. Il était terrorisé, il est allé rencontrer son frère, il savait que son frère y en voulait, puis il voulait le tuer. Dieu avait besoin de lui dire, inquiète-toi pas, je suis avec toi. Il dit, voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Ça devait être rassurant de se faire dire ça par Dieu lui-même. Je t'abandonnerai pas, je suis avec toi, inquiète-toi pas. Verset 16, et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en savais rien. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa en ce monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il appela ce lieu-là Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Et là, Dieu est en train de lui dire, retourne à Bethel où je me suis manifesté à toi dans le passé. Et verset 19, et il appela ce lieu-là Bethel, maison de Dieu, tandis qu'auparavant, la ville s'appelait Luz. Verset 20, et Jacob fit un vœu. C'est ça que Dieu veut lui rappeler. Qu'il avait fait un vœu au moment où lui était apparu pour l'encourager, en disant, voyez, c'est lui qui dit ça, c'est Jacob qui dit ça, là. Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais et me donne du pain pour manger, et des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. » Autrement dit, il s'était engagé devant Dieu que si Dieu lui donnait tout ce qu'on vient de lire, là, l'Éternel va être mon Dieu. Est-ce que l'Éternel lui a donné? Il lui a tout donné. Est-ce que l'Éternel était son Dieu? Oui, puis non, en même temps. Et verset 22, « Et cette pierre que je vais dresser en son monument sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. » Il est en train de dire, « Si tu accomplis ta part, je vais te donner la dîme de tous mes biens. » Verset Ecclésiaste, chapitre 3, verset 3 à 5. Juste pour nous faire voir l'idée que quand on fait un vœu à Dieu, il avait fait un vœu à Dieu, les Écritures nous disent que quand on fait un vœu à Dieu, ne pas prendre ça à la légère. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 3 à 5. « Car comme le songe naît de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous se fait connaître par la multitude des paroles. Quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère point de l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœux que d'en faire et de ne pas les accomplir. » Dieu demande que quand tu lui fais un vœu, aie assez de crainte de lui pour l'accomplir, sinon fais-en pas. Mm-hmm. T'es mieux de pas en faire que de dire que prendre des engagements face à Dieu et de pas les faire. Alors Dieu ici lui rappelle qu'il a fait un vœu. Si tu me donnes la nourriture, si tu me conduis, si je suis en sécurité, Dieu a tout fait de sa part. Jacob n'a pas encore fait la sienne encore un peu. Il lui rappelle, Dieu se sert du rappel, « T'as promis, t'as fait un vœu devant moi. » Alors, il lui rappelle sa volonté avec précision, « Monte à Bethel, maison de Dieu. » Et là, il lui rajoute d'autres choses, « Demeure-y. » Demeure-y. Et il lui dit aussi que retourner à la maison de Dieu, il fallait que ça se fasse dans l'adoration. Parce qu'il lui dit, fais-y un autel au Dieu qui t'est apparu. Faire un autel à cette époque-là, c'était l'idée de vouloir adorer Dieu. Puis, il lui rappelle aussi sa faiblesse. Lorsque tu fuyais devant Ésaü, ton frère. Alors, le Seigneur se sert souvent du rappel dans nos vies pour nous enseigner. Alors, le Seigneur rappelle à Jacob ses manquements. Après plus de 30 ans, ça faisait 30 ans là, qu'il avait eu cette affaire-là, il faut se souvenir de ça, ça fait longtemps. Là. Dieu lui rappelle qu'il n'est pas là où il avait promis d'être. Où qu'il aurait dû être? Le Seigneur lui avait dit de retourner dans l'endroit où il était né. C'était où l'endroit où il était né? C'était Beersheba. Il n'était pas Beersheba encore. Il avait été à Shichem, il avait peur de son frère, il ne s'est pas rendu à l'endroit. Alors, on voit une chose, qu'il avait fait des promesses à Dieu, il avait fait un vœu à Dieu, et même après 30 ans de la miséricorde que Dieu lui avait manifestée, il n'était pas encore, il n'avait pas encore accompli sa part, qu'on pourrait dire, du marché. Quant au Seigneur, lui, il avait accompli à la perfection toute sa part. Nourri, protégé, guidé, je vais te ramener dans la terre de tes pères. C'était je, là, c'était Dieu qui parlait. Et même après 30 ans, sa part, son vœu n'était pas encore accompli. Dieu se sert du rappel, il lui rappelle qu'est-ce qu'il avait promis. Il ne le fait pas avec ben là, je te l'avais dit. Il est doux, le Seigneur est doux. Il lui rappelle qu'est-ce qu'il a dit. Il lui rappelle que même après 30 ans, sa part du marché n'était pas encore accomplie. OK. Parce que dans le chapitre 31, verset 3, le Seigneur lui avait dit, « L'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. » C'était Beersheba. Il faisait un bout de temps qu'il était parti. Il avait été combien de temps là, pour avec ses deux femmes, là, avec chez son beau-père. 20 ans. Donc, entre son départ d'avec son beau-père et le moment qu'il vivait maintenant, il s'était passé 10 ans. Normalement, il aurait dû être rendu à Beersheba depuis longtemps. À quelque part, on voit la faiblesse du cœur humain et tout en train de... Oui, ça va dans la bonne direction, mais il ne se rend pas jusqu'où ici, où il avait dit qu'il se rendrait. Donc, la deuxième idée qu'on regarde, c'est que l'Éternel manifeste sa miséricorde envers les élus par la réforme. Comment on le voit, la réforme, là-dedans? C'est que Dieu permet qu'il fasse des liens entre l'événement, l'expérience qu'il vient de vivre à Sichem, là, avec le viol de Dina et tout ce qui s'est passé. Donc, l'Éternel, dans le verset 2 à 3, là, on voit que Jacob fait un lien entre ce qui vient de se passer et pourquoi il sent le besoin de se débarrasser de ces cochonneries-là, alors que ça faisait 20 ans, depuis qu'il était parti depuis 10 ans avec son beau-père. Ça veut dire qu'il traînait ces affaires d'idolâtrie-là avec lui. On se souvient que sa fille, elle avait volé les téraphimes de son père. C'était des instruments d'idolâtrie. Pourquoi il les avait gardés pendant 10 ans? Pourquoi il ne s'est pas débarrassé de ça tout au départ quand il a vu que sa femme avait volé ça à son père? Et puis là, dans le verset 2, il dit, « Jacob dit à sa maison... » On voit le rôle de leadership. Quand tu es le leader, Dieu t'a fait chef de famille, tu as un rôle à exercer en termes de leadership. Il dit, Jacob dit à sa maison, il ne parle pas de maison physique, il dit à sa maison, autrement dit, tous ceux qui étaient sous sa responsabilité, les êtres humains, et à tous ceux qui étaient avec lui, non seulement ceux de sa famille, mais ceux qui étaient, on sait qu'il traînait des servantes, puis il traînait des personnes. Donc, à quelque part, il est leader de tout ce groupe-là auquel Dieu lui a donné le leadership, et il veut que ces gens-là lâchent moi l'idolâtrie. Il a comme compris à un moment donné. C'est ça que ça dit. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ça, c'était les fameux téraphimes que sa fille avait amenés. Puis peut-être que les autres avaient aussi accumulé, parce que les affaires de pendant de règles, quand tu lis les commentaires, ils disent tous que ça avait des liens avec une forme d'idolâtrie ou d'un autre. Autrement dit, à cause que sa fille avait volé les téraphimes à son père, le groupe comme tel avait commencé à faire de l'idolâtrie. Et là, lui, il allume, il dit, « Ah, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. » Et là, ils se décident de se débarrasser. Là, il leur dit à tout ce monde-là, il était le chef de la famille, on obéissait à ce moment-là. « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Changez de vêtements. » Et là, il dit, « Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Donc, Jacob, il se rend compte qu'il est responsable devant sa famille. Il dit à sa maison, « Ôtez-moi ces jeux, ces affaires-là, débarrassons-nous-en. » Donc, il veut qu'on atteigne le lieu où Dieu lui a dit d'aller. Allons-nous-en là, puis faisons ce que Dieu a dit. Dans le verset 4, les gens qui étaient avec lui n'ont pas dit, « Ben là, moi, ces affaires-là, c'est à moi, puis je les garde. » Il était chef de la famille, ils ont obéi, ils ont dit. Alors, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Remarquez, c'est au pluriel. Hein? Tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. J'ai appris une chose en préparant cette leçon-là que je savais pas moi-même. Les chaînes, à l'époque, on faisait souvent l'idolâtrie sous les chaînes. Je ne sais pas pourquoi. Ça avait quelque chose de symbolique. Un chêne, c'est solide. Hein? C'est du bois dur. C'est un gros arbre solide. Ils faisaient leurs exercices d'idolâtrie sous les chaînes. Et c'est très important de voir qu'est-ce que Jacob est en train de faire. Il prend toutes les affaires que normalement on utilisait auprès d'un chêne pour faire d'idolâtrie, puis là, il les enterre en dessous du chêne. Il y a quelque chose de très symbolique, très fort. Autrement dit, normalement, on utilise les chaînes pour faire nos exercices d'idolâtrie. Maintenant, moi, je fais un trou et je les enterre en dessous du chêne. Il y a quelque chose de très fort symboliquement là-dedans. Alors, ça représente un geste de repentance collective. Lui, il se rend compte, il invite sa famille et tous ceux qui étaient avec lui de se débarrasser de ça. Et eux aussi, ils ont dû faire un lien parce qu'ils ont obéi et ils les ont enterrés sous le chêne. Alors, c'est vraiment une repentance qui est spontanée. Elle est aussi volontaire parce qu'ils ne l'ont pas faite sous les menaces. Ils ont voulu se débarrasser de ça. Et complète, autrement dit, toutes les affaires, les dieux qu'il y avait, y compris les en oreilles, ils ont tout enterré ça. Donc, la repentance, ils ont voulu démontrer par le fait où ils l'ont enterré que la repentance était irréversible. On ne recreusera pas pour aller chercher ça, là. Pour les enterrer, c'est pour s'en débarrasser de façon définitive. Puis c'est hautement symbolique à cause du fait sous le chêne qui était près de Sichem. J'ai regardé dans les dictionnaires avec le fond parce que ça m'a... quand j'ai préparé la leçon, je me suis dit, ah, les chênes, pourquoi il y a enterré ça là? Fait que j'ai fouillé dans l'article du nouveau dictionnaire biblique, édition Emmaüs, il y en a qui n'ont acheté une copie, le gros dictionnaire, à l'article « Le chêne des devins ». À la page 240, voici ce que ça dit. Le chêne des devins ou chêne des pronostiqueurs servait pour les augures et se trouvait près de Sichem. Ce chêne-là, c'était un endroit où on allait pour faire des gestes d'idolâtrie. Et c'est exactement là que Jacob allume puis il dit « Il y a fort probablement un lien en ce qui vient de nous arriver. » Et débarrassons-nous toutes de ça, puis enterrons-la même en dessous du chêne qui symbolisait l'idolâtrie. Très fort comme image quand on voit comme quand on voit l'article. Donc, le chêne des devins, quand on dit ou des pronostiqueurs, qu'est-ce que ça veut dire, pronostic? Ça veut dire quelqu'un qui essaie de deviner l'avenir à partir de d'outils d'idolâtrie. C'est un peu comme l'équivalent aujourd'hui, l'astrologie, ou d'essayer de savoir l'avenir par les lignes de la main, ou par n'importe quoi, là. C'est Dieu veut pas qu'on fasse ça. Mais eux, ils faisaient pareil. À quelque part, Dieu se sert du moment qu'il vient de leur arriver un malheur pour leur faire comprendre qu'il y avait peut-être un lien entre ce qui leur est arrivé et ce qu'ils faisaient comme pratique idolâtre. Versets 5 et 6. Une réforme qui, il dit, verset 5, il dit, « Ensuite, ils partirent. » Donc, ils ont fait ça, ils ont enterré. Et regardez le verset 5, qui est très intéressant. « Et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux. » Ça rappelle l'inverse, là. C'est que les villes, là, a dit, « C'est qui a fait ça, cette affaire-là, de tuer un peuple au complet puis de s'emparer de leurs biens à cause d'une histoire de viol. » Dieu permet que c'est les villes qui sont terrorisées, et n'est pas les villes qui terrorisent Israël. Et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux, et ils ne poursuivirent point les fils de Jacob. Autrement dit, le verset laisse sous-entendre que ça aurait pu arriver, que ce soit les villes qui poursuivent Jacob. Et le verset 6, « Et Jacob vint à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est Bethel, lui et tout le peuple qui était avec lui. » Donc, le Seigneur manifeste ouvertement son approbation de leur repentance en contrôlant leurs ennemis et en leur accordant que ceux-ci n'exercent pas de vengeance meurtrière contre Israël. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je pensais que je pouvais le faire dans une semaine, mais on va le faire en deux. Le prochain coup, on terminera ce passage-là. Alors, on va arrêter là.